Le journal Catherine Dutu, bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Les 15 milliards d'euros de l'État pour soutenir le secteur aéronautique n'auront pas suffi. Airbus supprime 15 000 postes dans le monde, 5 000 rien qu'en France. 7 500 postes sont par ailleurs menacés chez Air France. À chaque fois, les directions expliquent que les choix s'expliquent par les conséquences de la crise sanitaire. Les syndicats en doutent, vous l'entendrez.
La crise sanitaire et sa gestion en question avec l'audition d'Agnès Buzyn hier devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale.
La crise sanitaire hors de contrôle aux États-Unis, Joe Biden, le candidat démocrate à la présidentielle, renonce à tenir des meetings.
Et puis Pékin détaille ce matin sa loi sur la sécurité nationale à Hong Kong.
Le gouvernement central chinois remet au pas la région administrative semi-autonome. Hong Kong, la ville la plus libre de Chine, entre dans une ère d'autoritarisme, estiment de nombreux habitants et des pays démocratiques. Pourquoi Emmanuel Macron veut-il repousser les élections régionales jusqu'ici prévues en mars 2021 ? C'est la question que posera Frédéric Saïs dans son billet politique après ce journal. Il dépend des commandes des compagnies aériennes et celles-ci ont été durement éprouvées par la crise sanitaire. Pour éviter le crash, Airbus veut donc supprimer 11% de ses effectifs dans le monde d'ici à l'été 2021, sans exclure des licenciements secs afin, je cite, de redimensionner son activité dans l'aviation commerciale face à la crise due au coronavirus. Première concernée, l'Allemagne avec 5100 postes supprimés et la France 5000 emplois concernés. Des départs volontaires, des départs en retraite non remplacés. L'avionneur européen n'exclut donc pas de licencier de manière sèche et c'est excessif pour Bercy et les syndicats que Stéphane Iglesias a rencontrés à Blagnac, près de Toulouse.
Le couperet est donc tombé. Les mesures amères annoncées par Guillaume Faury, le PDG d'Airbus, aux salariés sont sur la table. Déjà, Bercy a toussé et estimé que ce plan est excessif. Jean-François Knepper, délégué central Force ouvrière.
Cette crise est conjoncturelle. Quand cette crise sanitaire sera passée, qu'un vaccin aura rassuré l'ensemble de la population mondiale, le transport aérien restera le principal médium de la mondialisation des échanges. Et de fait, nos activités vont reprendre. Pour être en mesure de redémarrer vite et fort, il faut garder tous les salariés dans l'entreprise. Donc nous allons nous battre pour qu'il n'y ait pas de mesures de suppression d'emplois contraintes dans le groupe.
Françoise Valin, coordinatrice de la CFE-CGC chez Airbus, a sorti son carnet de solutions.
D'abord, il y a des solutions qui ont été apportées par le gouvernement. Et dans ce plan de soutien, il y a des dispositifs pour maintenir l'emploi, de l'activité partielle de longue durée, par exemple. Des dispositifs aussi qui concernent la formation. Ensuite, il y a la durée aussi du plan. Plus vous faites un plan sur de la durée longue, plus vous êtes sûr de pouvoir proposer à des salariés des mesures acceptables.
Le PDG du groupe, Guillaume Faury, se dit lui déterminé à limiter l'impact social du plan, ne reste donc plus qu'à négocier.
Airbus qui supprime encore 900 postes en Espagne, 1700 au Royaume-Uni, où le syndicat Unite qualifie le plan d'Airbus d'acte de vandalisme industriel et d'une terrible insulte à l'incroyable main-d'œuvre britannique. Fin de citation. Air France compte de son côté supprimer plus de 7500 postes au niveau national et au niveau régional avec la compagnie Hop. Le coronavirus est le partenaire officiel du MEDEF et des grandes multinationales car il leur sert de prétexte pour supprimer des emplois, estime Fabien Roussel, député et secrétaire national du Parti communiste français. Bercy estime de son côté que les suppressions d'emplois chez Airbus sont excessives. Le gouvernement appelle donc le constructeur aéronautique à utiliser tous les outils mis à disposition à leur jumet.
Il y a trois semaines, le gouvernement annonçait 15 milliards d'euros pour le secteur aéronautique. Voilà qui n'a donc pas empêché ces restructurations. À Bercy, on savait qu'il y aurait des réductions d'effectifs malgré ce plan de soutien, car la chute de l'activité est brutale et on n'attend pas de retour à la normale avant plusieurs années. Et pas question pour l'exécutif de conditionner les aides à une interdiction des plans sociaux, alors que des voix s'élèvent en ce sens à gauche. On est dans une économie de marché, justifie un membre du gouvernement, et s'il n'y a pas de commandes, on ne va pas les inventer. Pour Bercy, l'enjeu est désormais de limiter au maximum les suppressions d'emplois, d'où la mise au point du dispositif de chômage partiel de longue durée qui permet de réduire de 40% le temps de travail en échange de maintien dans l'emploi. Selon les estimations du ministère de l'Économie, ce sont entre 1 000 et 1 500 postes qui pourraient être sauvegardés chez Airbus grâce à cette mesure qui entre en vigueur aujourd'hui. Autre objectif, parvenir à un maximum de départs volontaires, alors que l'avionneur n'exclut pas à ce stade des départs contraints. Ces 15 000 suppressions de postes, c'est une base de négociation, estime-t-on à Bercy. D'ailleurs, le constructeur aéronautique indique qu'il va désormais travailler avec les syndicats pour limiter l'impact de ce plan, en s'appuyant sur toutes les mesures sociales disponibles. Départs volontaires, retraite anticipée et chômage partiel de longue durée.
Chez Renault, ce sont 4600 postes qui doivent être supprimés en France, 15 000 dans le monde. Un virage économique que devra prendre Luca De Meo, un Italien francophone qui devient nouveau directeur général de la marque au Losange aujourd'hui. Alors que le marché automobile français, stimulé par les mesures de soutien du gouvernement, s'est redressé en ce mois de juin, progressant de 1,2% sur un an, après des mois de chute libre liée à la crise sanitaire. Cette relance de 1,2% sur un an, c'est ce qu'annoncent ce matin les constructeurs.
8h05 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutulle. L'Union européenne rouvre à partir d'aujourd'hui ses frontières à 15 pays, dont le Japon, l'Algérie, où la pandémie de coronavirus est en recul. Mais les États-Unis ne font pas partie de cette liste.
Car dans ce pays, le virus continue à se propager. Les autorités sanitaires parlent même d'une situation hors de contrôle. Anthony Fauci, directeur de l'Institut américain des maladies infectieuses, estime que l'on pourrait passer de 40 000 nouveaux cas détectés par jour à 100 000 si rien n'est fait. Et le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, âgé de 77 ans, a décidé de renoncer à ses meetings en vue de l'élection présidentielle de novembre prochain. Contrairement au président républicain Donald Trump, Joe Biden s'en est expliqué hier.
C'est la campagne la plus étrange de l'histoire moderne. Mais voici ma promesse. Je vais suivre les consignes des médecins, pas juste pour moi, mais pour le pays. Et ça veut dire que je ne vais pas organiser de meeting. Par exemple, vous êtes réunis avec moi aujourd'hui, mais l'école où on se trouve a placé des cercles sur le sol pour respecter la distanciation sociale. Tout le monde a un masque. Dès que j'aurai fini ce discours, je vais remettre le mien. Et tant qu'on n'aura pas un traitement pour guérir les malades et un vaccin sûr, on doit faire tout notre possible pour que les Américains restent en bonne santé.
Joe Biden, le candidat démocrate à la présidentielle, traduit par notre correspondant aux États-Unis, Grégory Phillips. Au Royaume-Uni, le gouvernement a lui décidé de reconfiner la ville de Leicester et son agglomération, soit plus de 600 000 habitants, en raison d'une flambée de cas de coronavirus dans cette ville du centre de l'Angleterre. Par ailleurs, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, initialement prévue au Cameroun en février prochain, est reportée à 2022 à cause de la pandémie. Elle a été cuisinée par les députés de la commission d'enquête sur la gestion de la crise liée au coronavirus en France. Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé en poste jusqu'à la mi-février, a été auditionnée plus de 4 heures hier soir, combative, parfois émue. Elle s'est défendue d'avoir manqué d'anticipation ou de réactivité, notamment sur la question des masques. Mais Agnès Buzyn n'a pas vraiment convaincu les élus de l'opposition, Rosalie Lafarge.
Elle dit avoir pris conscience du danger très tôt, avoir alerté, avoir anticipé et réagi comme il le fallait. Agnès Buzyn arrive avec des faits, des dates, tout un tas de notes pour répondre aux questions des députés, mais certains ressortent furieux.
On a anticipé quoi ? On a tout bien fait quoi ?
Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI.
On me parle des tests du Canada, de machin, mais on s'en fout du Canada. Son boulot, c'était d'être ministre français, c'était d'appliquer la doctrine française. La doctrine française, c'était d'avoir 1 milliard de masques. Où était-il ? À un moment donné, la révolte qui est la mienne, je pense qu'elle commence à être celle de beaucoup de Français en disant « on se fout de nous ».
Pendant de longues minutes, il est question du stock stratégique d'État de masques de protection, de son évaporation, de ce courrier qui informe fin 2018 de la péremption d'une partie de ce stock. Agnès Buzyn assure qu'elle n'en avait pas connaissance, ce qui laisse pantois Julien Aubert chez les LR.
On a l'impression d'avoir un ministre qui a tout vu, tout compris, mais qui n'était pas du tout informé par les agences qui étaient en bas, en disant « on ne m'a rien transmis, on ne m'a pas dit par exemple que les stocks de masques étaient vermoulus ». Donc c'est très inquiétant, je crois, pour les Français.
Mais plus encore que la ministre elle-même, c'est toute l'organisation qui interroge les socialistes Boris Vallot et Valérie Rabault.
D'octobre 2018 à janvier 2020, on sait que la France n'a pas son stock de masques et pendant 15 mois, personne ne réagit. Donc ça pose un sujet.
Mais elle nous a dit aussi que beaucoup de choses ne remontaient pas jusqu'à elle, mais la somme des choses qui ne sont pas remontées jusqu'à elle finit par questionner sur la bonne information de la ministre.
Qu'est-ce qui relève d'un ministre de la Santé ? De quoi a-t-il connaissance ? Ces questions, les prédécesseurs d'Agnès Buzyn vont à leur tour devoir y répondre. La commission attend Marisol Touraine et Roselyne Bachelot aujourd'hui. Demain, ce sera au tour de Xavier Bertrand.
6 policiers ont été placés en garde à vue pour détention et transport de stupéfiants. L'affaire concerne la compagnie de sécurisation et d'intervention de Seine-Saint-Denis. 17 enquêtes préliminaires sont en cours au total après le témoignage d'un homme et la révélation d'une vidéo où l'on voyait un policier sortir de sa poche un sachet de drogue et le jeter à terre, accusant ensuite le suspect de trafic de stupéfiants. Taïwan a ouvert ce matin un bureau destiné à aider les personnes souhaitant fuir Hong Kong après que la Chine a imposé une nouvelle loi de sécurité nationale dans l'ancienne colonie britannique. En ce 1er juillet, jour anniversaire de la rétrocession d'Hong Kong à la Chine, le gouvernement central remet donc au pas sa région semi-autonome. Hong Kong, la ville la plus libre de Chine, entre désormais dans une ère d'autoritarisme, estiment plusieurs habitants et des pays démocratiques, Dominique André.
Le ton de la conférence de presse a été ferme ce matin. La loi va réprimer les 4 crimes contre la sécurité de l'État, la sécession, la subversion, le terrorisme et la collusion avec l'étranger. Ils pourront être punis de la prison à vie. Détruire un véhicule de transport ou un équipement public sera considéré comme un acte terroriste. Les ONG et les groupes d'activistes seront supervisés de façon très stricte. Les droits et les libertés, comme la liberté de parole, de la presse et de publication, entreront dans le cadre de la nouvelle loi. Zhang Xiaoming, responsable du bureau de Hong Kong à Pékin, a fustigé les pays étrangers qui déplorent l'adoption de la loi et menace la Chine d'une riposte.
C'est une logique de bandit. Nous avons établi une loi pour sauvegarder la sécurité nationale. Ça ne vous regarde pas. Nous ne vous avons pas provoqué. De quel droit êtes-vous agressif avec nous ?
La loi a été promulguée à 23h hier soir, juste une heure avant l'anniversaire de la rétrocession. Hong Kong entre dans l'ère de l'ordre après le chaos, affirment les autorités.
Si on considère la loi comme un cadeau d'anniversaire pour les 23 ans de la région administrative spéciale, ce cadeau nous montrera certainement un jour toute sa valeur.
La marche prévue aujourd'hui à Hong Kong, comme tous les ans, a été interdite. Un dispositif de sécurité important a été déployé.
Dominique André à Pékin pour France Culture. Nous étions hier avec l'Ocean Viking qui patrouille en mer au large de la Libye et de la Tunisie pour tenter de sauver les migrants qui tentent la traversée vers l'île italienne de Lampedusa. Allons ce matin sur place, sur cette petite île d'à peine 6500 habitants qui voient les migrants affluer en pleine crise du coronavirus. Des migrants finalement invisibles, même s'ils sont actuellement plus de 150 dans le centre d'accueil de l'île et désormais 160 à attendre à bord de l'Ocean Viking. Le reportage à Lampedusa de Bruce de Galzin.
Enzo Rizzo nous montre sur son ordinateur de bord les points précis où gisent sous l'eau les barques des migrants naufragés. La nuit dernière, ce bon pêcheur a heurté une barque et endommagé son bateau.
Ça arrive souvent, on peut colmater les brèches et sinon on rachète du matériel. Il nous faudrait une aide, mais moi, cela ne m'empêche pas d'accueillir les migrants. Et puis j'assume mes responsabilités.
Et il les accueillait chez lui, lorsqu'il pouvait s'échapper du centre d'accueil. Un bunker encaissé entre deux collines dans le cœur de l'île, mais les migrants sont très surveillés désormais. Salvatore Martello est le maire de Lampedusa.
Après toute cette période de Covid et encore aujourd'hui, il n'y a personne dans les rues, aucun migrant, parce que nous avons bien gérer leur confinement. La perception des Lampedusiens comme des touristes, c'est que les migrants sont invisibles.
Lampedusa gère encore seule les arrivées de migrants. Paola La Rosa est membre du forum Lampedusa Solidale. Elle en veut énormément à l'Europe.
En ce moment, ce sont les ONG qui font le travail. Ce sont les seuls qui sont en train de nous sauver, de sauver notre dignité et notre humanité.
Mais ici, tous ne sont pas d'accord. Des barques de migrants ont été incendiées dernièrement.
Bruce de Galzin, envoyé spécial de France Culture à Lampedusa. Eux ont réussi à gagner la France et ils se retrouvent à dormir sous des tentes, 70 alignées depuis lundi soir, square Jules Ferry, près de la place de la République à Paris. Les jeunes qui y dorment disent avoir 15, 16 ou 17 ans, mais leur minorité n'a pour l'instant pas été reconnue et l'attente de la décision judiciaire définitive peut durer plus d'un an. 5 associations qui soutiennent ces mineurs isolés étrangers interpellent l'État et les conseils départementaux d'Île-de-France pour qu'ils prennent en charge ces jeunes, comme le prévoit la loi. Aurélie Kiefer est partie à leur rencontre.
André vient de Côte d'Ivoire. Il a souvent dormi dehors avant d'être hébergé à l'hôtel le temps du confinement. Sous la tente, il potasse des cours de cuisine. André espère suivre un jour une vraie formation, mais pour l'instant, il attend.
Bon, quand je suis arrivé en France, je suis parti voir la Croix-Rouge. Et j'ai passé un test et ils m'ont dit que j'avais une maturité. Je ne savais pas de quoi ils parlaient au juste. Ils m'ont dit de faire un recours.
Et donc vous attendez depuis combien de temps ?
Ça fait bientôt 7 à 8 mois maintenant. Je fais des études. Mon inquiétude, c'est que je vais avoir mes 18 ans en janvier. Et j'ai pas encore, je ne sais pas quand est-ce que je vais croiser le juge pour pouvoir prendre des cours. Je ne sais pas.
Ma seule famille ici, dit André, c'est MSF. Pour d'autres jeunes, la main tendue a pour nom Utopia 56, le Comed ou la Timi. Ces associations les ont aidés à trouver des vêtements propres, à dormir au chaud, à apprendre le français et même à s'entraîner au football. Mais à la longue, elle trouve que les pouvoirs publics se défaussent sur elle. Corinne Thor, chef de la mission France de Médecins sans frontières.
Le fait que nous les hébergions, ça facilite la tâche des conseils départementaux et du ministère de l'Intérieur. Il faut arrêter et il faut les rendre visibles. Dans les textes, c'est écrit noir sur blanc, la Convention internationale de la protection de l'enfance, c'est déjà bénéfice du doute, intérêt supérieur de l'enfant, et dès lors qu'un enfant est en recours auprès d'un juge, eh bien c'est respect de la présomption de minorité. Donc, ça veut dire prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. On ne discute plus que les conseils départementaux et les ministères assument leurs responsabilités.
Et les associations demandent pour ces jeunes une prise en charge réelle et systématique, adaptée à leur vulnérabilité.
La ville de Paris dit avoir proposé de cofinancer à part égale avec l'État la création d'un centre d'hébergement adapté pour les jeunes évalués majeurs et en recours. Une réunion sur ce sujet est prévue cet après-midi. Après un premier semestre 2020, le plus chaud jamais enregistré en France, quelques mots du temps de ce mercredi 1er juillet, pluvieux sur la plupart des régions de l'Hexagone. Au meilleur de la journée, il fera entre 19 et 22 degrés de la Bretagne jusqu'au Hauts-de-France. Comptez de 22 à 29 degrés cet après-midi sur la moitié ouest, 27 à 32 dans l'est, Guillaume Erner.
Merci beaucoup Catherine Dutu. 8h15 sur France Culture. Dans quelques instants, nous allons retrouver notre invité, Maître Hervé Temim, pour évoquer la justice et son indépendance. Une indépendance aujourd'hui qui voit un certain nombre de commentaires acerbes sur le parquet national financier. Dans un quart d'heure environ, nous évoquerons deux très bons romans pour cet été. Rebecca Ligieri qui publie « Il est des hommes qui se perdront toujours » aux éditions POL et « La réaction » par Comme-Martin Carl chez Gallimard. Un billet politique dans quelques instants avec vous, Frédéric Saïs. Bonjour.
Bonjour.
Sur quel thème aujourd'hui ?
On va tenter de comprendre pourquoi Emmanuel Macron veut repousser les élections régionales qui étaient jusqu'ici prévues en mars 2021.
Alors dans un instant.